France Musique. Musicopolis. Diego Ortiz, l'Espagne en Italie. Connaissez-vous le tableau de Véronèse, Les Noces de Cana ? Il est au Louvre, c'est le plus grand tableau du musée et il est exposé dans la même salle que la Joconde. Il a été commandé en 1562 par les moines bénédictins de San Giorgio Maggiore à Venise pour orner le réfectoire. Et Véronèse l'a peint dans l'année qui a suivi. Le tableau a ensuite été prélevé, comme on dit joliment, à la suite du traité de Campo Formio et rapporté à Paris en 1798. C'est un superbe tableau, très coloré, foisonnant, avec ses 130 personnages, et pourtant très clair, grâce au ciel bleu qui l'aère. Nous sommes face à une table en U, au centre de laquelle se trouvent deux personnages entourés d'une auréole, Jésus et Marie. Et devant eux, au premier plan de la toile, un groupe de musiciens jouant des viols de gambe et du cornet. Ces musiciens ont été identifiés comme quatre peintres célèbres, qui était donc aussi instrumentiste. Véronèse lui-même, en blanc et de face, à la viole ténor, le Titien, à droite, jouant de la basse de viole, le Tintoret, une viole soprano, bassano, du cornet. Et derrière Véronèse, semblant lui parler à l'oreille, serait le compositeur Diego Ortiz en personne, jouant de la viole ténor. Ce que nous entendons ici pourrait être en quelque sorte la bande-son du tableau de Véronèse, ce que jouent les cinq musiciens. Si on ajoute à la musique quelques bruits de vaisselle, le vin qui coule des jarres, la hache du boucher qui découpe l'agneau, quelques conversations feutrées, trois oiseaux qui passent, alors on y est carrément. Le personnage qui nous intéresse le plus dans ces Noces de Cana est évidemment le musicien placé derrière Véronèse et dont on voit seulement le visage et la main gauche en train de jouer de la viole. Ce sont des recherches toutes récentes qui ont révélé qu'il pourrait s'agir de Diego Ortiz. Et en effet, tel qu'il est représenté, il ressemble énormément à son portrait gravé sur la page de titre du recueil Tratado de Glosas, le traité des gloses. Même cheveux et barbe bouclée, même forme de visage, même ride sur le front. Thank you. moment où il publie son Tratado de Glosas, Diego Ortiz, dit « le Tolédan », comme indiqué sur la page de titre, est à Naples. Voilà qui n'est pas du tout étonnant pour un Castillan, venir faire carrière en Italie. C'est que Naples est à ce moment-là attaché à l'Espagne. Le royaume de Naples a été conquis par les Espagnols au milieu du XVe siècle. Depuis, il est gouverné par un vice-roi, nommé directement par le roi d'Espagne. En 1553, l'année du Tratado de Ortiz, on est encore sous le règne de Charles Quint. On ne sait pas grand-chose de Diego Ortiz avant la publication de son Tratado de Glosas, dont la dédicace à l'illustre seigneur Dom Pedro Duriez est datée du 10 décembre 1553. Mais quelques indices nous mettent la puce à l'oreille. D'abord, son livre est publié à la fois en espagnol et en italien. Un italien matiné de pas mal d'hispanisme qui laisse à penser que c'est Ortiz lui-même qui a fait la traduction. Et donc, c'est qu'il était vraisemblablement en Italie depuis assez longtemps pour apprendre la langue et pouvoir l'écrire, même imparfaitement. Sur la gravure qu'il représente, sur la page de titre, il a déjà quelques rides. Il paraît en pleine maturité. Les musicologues ont fixé sa naissance par conséquent vers 1510. Et puisqu'il signe Diego Ortiz le Tolédan, il est vraisemblablement né à Tolède. Ou du moins, a-t-il vécu à Tolède, tout comme le vice-roi nommé par Charles Quint en 1531, Pedro Alvarez de Tolède. Sous l'administration de Pedro Alvarez de Tolède, Naples a pris un vrai coup de jeune. Pedro a augmenté le périmètre de la ville, il a fait paver les rues, il en a fait percer de nouvelles, comme la fameuse Via Toledo, qui sépare la vieille ville des quartiers espagnols. Diego Ortiz est arrivé d'Espagne dans la suite de Pedro Alvarez de Tolède, avec d'autres musiciens espagnols. Comment avait-il fait son apprentissage ? sans doute dans l'une des églises de Tolède, depuis toujours l'une des capitales de Castille, et le siège de la cour du temps de Charles Quint. On peut donc y entendre à la fois la musique espagnole, native d'Espagne si je puis dire, et aussi la musique franco-flamande, venue avec Charles Quint de ses Flandres natales. Pour un jeune musicien comme Ortiz, une formation sans nul doute tout à fait riche et complète. Si on ne peut que supposer la formation et le début de carrière de Diego Ortiz, en revanche, le volume qu'il publie en 1553, son Tratado de Glosas, nous donne beaucoup d'informations. D'abord, pour la publication, chez un éditeur de Rome, il a obtenu un privilège du pape, qui est alors Jules III. Celui-ci écrit donc une adresse en tête de volume, informant le lecteur que, je cite, « Notre cher fils, Diego Ortiz, clerc de Tolède, maître de chapelle du vice-roi du royaume de Naples, a l'intention d'imprimer un livre de glose et de contrepoint, enseignant l'art de jouer de la viole, livre qu'il a composé non sans grands efforts et nombreuses veilles, et aussi avec la grande aide de la part de jeunes gens désireux d'être instruits dans cet art. » En conséquence, le pape offre donc à Ortiz le privilège, c'est-à-dire l'exclusivité de l'édition de son recueil pendant 10 ans. En tête de son Tratado de Glosas, traité des gloses, que vous trouverez en lien sur la page de Musicopolis, dans l'adresse à ses futurs lecteurs, Diego Ortiz prévient qu'il va le séparer en 2 volumes. Dans le premier, il va donner des exemples de gloses, c'est-à-dire de diminutions ou d'ornements que le joueur de viol peut réaliser dans les cadences pour toutes les sortes et manières de notes qui peuvent se présenter. Et dans le second volume, il expliquera de quelle manière le violiste peut jouer avec d'autres instruments. Thank you. Dans le premier volume de son traité, Diego Ortiz donne des exemples presque à l'infini de toutes les manières d'aller d'une note à une autre. Dans le deuxième volume, il met en situation cet apprentissage en montrant comment varier quelques danses et comment varier quelques morceaux entiers. Il choisit deux morceaux à la mode à son époque, supposés connus de tous. Le premier est le madrigal « O Felici Occhi Miei », musique de Jacques Arcadelt, publié pour la première fois en 1539. Ortiz le présente d'abord en version vocale. Après avoir présenté le madrigal « O Felici Occhi Miei » d'Arcadelt dans sa version originale à quatre voix, Diego Ortiz en donne dans son traité la version instrumentale ornée. Comparé aux autres traités de son époque, on peut s'étonner que celui de Diego Ortiz ait été très peu commenté et qu'il en reste seulement un très petit nombre de copies. Pourtant, il est certain qu'il a eu une grande influence. D'ailleurs, il a été redécouvert dès le début du XXe siècle, bien avant la grande révolution de la musique ancienne. Je reviens à la préface du volume et à ce qu'on y apprend. Diego Ortiz était donc maître de chapelle du vice-roi de Naples et certainement un professeur recherché, puisque de nombreux jeunes musiciens venaient travailler avec lui. Il est resté maître de chapelle sous différents vice-rois, au moins jusqu'en 1570. C'est en 1565 qu'il publie, à Venise cette fois et non plus à Rome, son premier livre de motets. Un premier livre, mais en fait il n'y en aura jamais de deuxième. Thank you. Sachant que Diego Ortiz a fait publier son volume de motets en 1565 à Venise, il est tout à fait plausible qu'il ait fait le voyage depuis Naples, peut-être avant septembre 1563, date à laquelle Véronèse a achevé son grand tableau des noces de Cana pour San Giorgio Maggiore. Lorsque les spécialistes étudient la toile, ils voient que le portrait de Ortiz en a remplacé un autre, sans doute celui du peintre Giorgione. C'est dire à quel point la renommée de notre Ortiz devait être grande pour qu'on lui fasse une place au premier plan d'une œuvre aussi magnifique. La chanson « Douce mémoire », musique de Pierre Sandrin, poème de François Ier, et deux variations instrumentales réalisées par Diego Ortiz dans son traité des gloses, Tratado de Glosas, l'ensemble Comet Music, dirigé par Francisco Magnalich. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Kravets pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Manuel Couturier pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.